France Info.
France Info.
Jeanne Weber a été jugée une première fois à Paris le 29 janvier 1906. Dans le box, la foule est venue en masse assister au procès de celle qu'on surnomme l'ogresse de la goutte d'or. La foule découvre une femme de 31 ans, au visage rond, à la silhouette plutôt épaisse, mais à la figure sympathique. Ce qui frappe d'entrée, c'est sa détermination farouche à nier. Dénoncée par un médecin, Jeanne Weber est accusée d'avoir assassiné, en les étranglant, 8 enfants, dont son propre fils et 3 de ses nièces. Dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, ils ont tous été retrouvés avec des traces de strangulation autour du cou. Durant les 2 jours d'audience, elle a maintenu sa version. Elle est innocente. Jamais elle n'aurait fait de mal à ses enfants, qu'elle aimait par-dessus tout. Des témoignages le confirment, Jeanne était appréciée dans le quartier et on lui confiait sans crainte des enfants. Au fil des heures, la presse et l'opinion publique commencent à douter, changent d'avis et se laissent convaincre de son innocence quand survient la déposition du professeur Toineau. Cette sommité de la médecine légale est formelle. Ses enfants n'ont pas été étranglés, leur mort est naturelle. Il parle de laryngite diphtérique ou encore de contraction de la glotte. À la suite de ce témoignage convaincant, l'avocat général s'exclame « Je renonce à l'accusation, Jeanne Weber est innocente. Elle est acquittée sous les acclamations du public. » Mais elle supporte mal cette notoriété soudaine qui la pousse à boire et la détruit. En mars 1907, la voilà à Châteauroux, sous une autre identité, celle de Madame Blaise. Elle rencontre un agriculteur, Sylvain Bavouzet. Ce veuf lui confie la garde de ses 3 enfants. Le 17 avril, Madame Blaise le rejoint affolée dans son champ. Son fils Auguste est pris de suffocation. Le médecin, accouru sur le champ, ne peut que constater le décès du petit Auguste. L'affaire en serait restée là si, quelques jours plus tard, la fille aînée de Bavouzet n'était allée se confier aux gendarmes. Elle leur affirme qu'elle a vu Madame Blaise étrangler son frère. Interrogée, Madame Blaise nie, bien sûr, mais elle révèle sa vraie identité, Jeanne Weber. La presse, puis l'opinion publique se passionne à nouveau pour elle. L'ogresse de la goutte d'or a-t-elle à nouveau tué ? D'un côté, il y a ceux qui veulent voir qu'une tueuse d'enfants et de l'autre, une victime de la fatalité. Le professeur Toineau est appelé pour autopsier le corps de l'enfant. Ses conclusions sont à nouveau formelles. Jeanne Weber n'a pas tué le petit Auguste. Il est décédé à la suite d'un étouffement naturel. Convaincu, le juge prononce un non-lieu. Jeanne Weber remonte sur Paris en héroïne d'un destin incroyable. Pour l'aider, la Société de la protection de l'enfance lui trouve même du travail dans une crèche. Elle disparaît à nouveau sous le nom de Marie Lemoine. Elle se remet à boire et pour survivre, elle se prostitue. Ensuite, elle s'installe dans un garni à Commercy dans la Meuse. Elle s'est mise en ménage avec un ouvrier. Le propriétaire lui confie Marcel, son fils de 6 ans. Un soir, les parents du petit sont soudain attirés par les hurlements venus de la chambre de l'enfant. Ils s'y précipitent. Quand ils arrivent, ils découvrent Jeanne assise sur le lit, en proie à une crise d'hystérie à côté de leur enfant mort. Jeanne Weber n'échappe pas à une nouvelle enquête. Cette fois, l'opinion publique s'est retournée contre elle. C'est au cri d'Amor l'ogresse qu'elle est accueillie devant la prison Saint-Michel par une foule en furie. Le professeur Toineau, encore lui, piqué dans son honneur, la défend encore. Il tente d'expliquer que Jeanne Weber a commis ce seul crime par suggestion, selon lui. La trop grande publicité faite autour d'elle et les mauvais traitements qu'elle a subis ont fini par la convaincre qu'elle est bien une criminelle. Mais cette fois, la justice ne suit pas le vaniteux professeur. Jeanne Weber est reconnue coupable de tous ses crimes. Elle est déclarée folle et elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Elle y meurt 10 ans plus tard, en 1918. Elle avait 44 ans.